quand j'ai décidé de partager Néhémie avec vous, j'ai lu tout le livre de Néhémie, et pour mieux comprendre le contexte de cette époque, c'est-à-dire que le retour, l'exil des Juifs en Babylone et le retour des Juifs aussi de Babylone à Jérusalem. Je suis allée lire aussi le livre de Esdras et puis sur Agée et Zacharie. Comme ça, j'ai toute la vision de toute cette époque-là. Donc, c'est vrai, peut-être c'est un peu étrange pour vous. J'essaie d'être bref. En étudiant, préparant sur Néhémie, je me suis rendu compte que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, il est le maître qui détient l'histoire du peuple Israël. Il est aussi le maître de toute l'histoire de l'humanité. Comme il a permis aux Babyloniens de déporter le peuple Israël par trois fois à cause de leur idolatrie, ils se sont détournés du Seigneur, ils sont allés adorer les autres idoles des autres peuples. Dieu a utilisé de nombreux prophètes pour leur parler, pour les ramener, se détourner de leur péché et se tourner vers le Seigneur, mais ils ont fait sourde oreille. Donc le Seigneur a dit, si vous n'entendez pas, je vous disperserai parmi les peuples. Et ça s'est arrivé en l'année 586 avant Jésus-Christ, c'est la troisième déportation et c'est la dernière fois que les Juifs ont Jérusalem. Donc Dieu a permis au roi de Babylone d'attaquer la ville, détruire le temple en feu et détruire la muraille de Jérusalem en feu. Donc comme il a permis trois fois de suite la déportation des Juifs en Babylone, il a permis aussi au roi de Babylone d'emporter tous les ustensiles du temple à Babylone. Et à travers la bouche du prophète Jérémie, il a aussi prophétisé que 70 ans après, il faut compter à partir de la première déportation, 70 ans après, il va aller permis, autoriser un retour des exilés. Et donc le moment est arrivé. Le premier retour, ça s'est fait sous le contrôle de Zorobabel. Zorobabel, c'est un descendant de la famille de David. Il est le petit-fils du roi Josaphat. Donc, pendant 70 ans, Dieu n'est plus présent parmi le peuple juif. Et 70 ans après, comme il a promis, il a de nouveau reconnaître le roi et permis le retour. Donc, il a agi à travers le roi de Perse, Cyrus, qui a autorisé les Juifs qui sont exilés à Babylone de retourner en Jérusalem. Mais il y a un but. C'est pour reconstruire le temple de Dieu, la maison de Dieu, qui a été détruite par le feu, par les Babyloniens. Et comme il a permis que le roi Babylone emporte tous les ustensiles à Babylone, cette fois-ci, il a permis au roi de Perse de restituer tous les ustensiles que les Babyloniens ont repris. Donc, franchement, hein, il a permis d'enlever, maintenant il a permis le retour. Donc, le retour de sous Zorobabel et Josué, le but c'est reconstruire le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. Donc, c'est la première étape. Deuxième retour avec Esdras. Une fois le temple est construit, Esdras est un sacrificateur, un scribe, dont Dieu a utilisé Esdras pour leur parler, rappeler, faire connaître, enseigner la loi. La loi, ça inclut tous les livres de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, Dieu fait les choses dans l'ordre. D'abord, reconstruire le temple. Ensuite, enseigner la loi au peuple pour qu'il puisse savoir de nouveau comment célébrer Dieu, adorer Dieu et vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Si vous regardez en avant, avec Moïse, c'est pareil. Dieu d'abord a ordonné à Moïse de construire d'abord le tabernacle. C'est seulement quand le tabernacle est construit, Dieu a donné la loi. Donc Lévitique suit après. Donc ce n'est pas la loi avant, c'est la loi après. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant que le temple est reconstruit, la loi est rétablie, il reste la muraille. Vous avez lu tout à l'heure, la muraille est en ruine. Alors, ça s'est passé entre le premier retour Zorobabel jusqu'à l'époque où Dieu a parlé à Néhémie. Ça s'est écoulé plus que 90 ans. Donc, si on fait le calcul de 70 plus 90, 93, Néhémie, il doit être la troisième génération des Juifs qui est en exil à Babylone. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de Néhémie. Donc, vous voyez, moi, j'ai compris vraiment à travers l'étude d'Esdras et Néhémie que Dieu, il fait des choses que nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas toujours comprendre. À chaque moment déterminé par lui, il utilise des différentes personnes pour accomplir différents travaux. Et quand la personne obéit, suit Dieu, dépend de Dieu, bah, toute la mission que Dieu lui a accomplie est réussie. Maintenant, nous allons voir comment Dieu a touché Néhémie. Voilà. Donc, répond Néhémie de 1. Voilà. Appel de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure. Néhémie a reçu les frères qui reviennent de Jérusalem. Comme il se préoccupe beaucoup de ce qui se peut passer là-bas, du coup, il a demandé comment ça s'est passé, comment est la situation. Alors, les hommes lui ont reporté que ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem. Et ces portes ont été détruites par le feu. Donc, vous voyez, ce n'est pas très mirobolant. Donc, c'est franchement désolant et triste. Pas seulement les murailles, les pierres, mais aussi l'état spirituel, l'état, la morale du peuple retour de l'exil. Et nous voyons ensuite... Ça revient. La réponse de Néhémie, nous le connaissons par verset 4 à verset 5. Il nous a dit, dès qu'il a entendu cette description, il se met à pleurer. Mais c'est une pleure qui est vraiment triste, qui vient du cœur. Quand on pleure, souvent on est triste, on pleure. Mais ici, Néhémie ne pleure pas sur son triste sort. Il a un bon travail auprès du roi, il sert le roi pour boisson, il doit avoir un confort, habitat, tout vraiment bien. Mais là, il se préoccupe de la déshonneur, de conditions misérables de son compatriote qu'il ne connaît même pas. Il est la troisième génération du peuple Israël, il est né à Babylone, à Suse probablement. Il n'a jamais été à Jérusalem, il n'a jamais vu le temple. Donc, c'est assez loin de lui. Il peut très bien dire, ça ne me regarde pas, c'est leur problème. Mais non, là, il s'est mis à pleurer, il s'est vraiment jeûné, prié dans le deuil. C'est-à-dire que Dieu l'a touché, son cœur. Dieu a mis un appel dans son cœur. Donc, nous voyons ensuite comment il a prié, sa prière. Après le jeûne, voilà, il s'est mis à prier, à jeûner. Dans sa prière, il y a plusieurs étapes. Il commence à louer Dieu. Il dit, il reconnaît que le nom de Dieu est grand et redoutable. C'est vrai que souvent, tout à l'heure, on a chanté « Dieu est grand, Dieu est bon », mais souvent, on oublie ce versant « redoutable ». Ça veut dire que Dieu est juste, Dieu est saint. Il ne peut pas laisser impunis les pécheurs. Donc, si tout le monde dit, si des gens me disent que tout le monde peut aller au paradis, je suis désolée, Dieu est redoutable. Donc, il ne peut pas laisser un pécheur impuni. S'il ne reçoit pas Christ à notre époque, comme Seigneur et Sauveur, il est destiné à la colère de Dieu et le jugement. Donc, Néhémie, il a vraiment proclamé, reconnaître les attributs de Dieu. Pas seulement grand, mais redoutable. Souvent, on oublie ce versant redoutable. Et il a reconnu aussi la bonté, l'amour de Dieu envers ceux qui l'obéissent, qui respectent son alliance et ses commandements. Ensuite, il confesse le péché du peuple Israël. Pourtant, il est de la 30e génération. Il n'est pas, c'est pas lui qui a désobéi à Dieu. Nous voyons bien que quand j'ai lu tout le texte, Néhémie, c'est un homme de prière. C'est un homme qui dépend complètement de Dieu. Il connaît très bien Dieu et il a une relation intime avec Dieu. Mais là, ici, il s'identifie au peuple d'Israël pour confesser leurs péchés. Il a dit que lui et sa famille, ils ont péché contre Dieu. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose. Si Dieu ne l'a pas touché, je ne pense pas qu'il puisse dire autant. Ensuite, ça marche pas. Il rappelle. Il intercède pour eux. C'est la prière d'intercession. Et dans cette prière d'intercession, il met en avant tout d'abord la parole de Dieu. Il rappelle, il demande, il supplie à Dieu de se souvenir de la parole qu'il a dit à Moïse. C'est que quand le peuple se montre infidèle, il va les disperser. Donc c'est ce qui est arrivé. Et s'ils se retournent vers lui, il va les rassembler là où ils sont et les ramener à Jérusalem. Donc là, Dieu l'a fait aussi. Et ensuite, il a mis en avant le peuple de Dieu. Il a confessé, il a dit, proclamé que le peuple d'Israël est de nouveau ses serviteurs et aussi le peuple de Dieu. Ensuite, ils disent que ce peuple a été racheté par Dieu. Et c'est vrai que Dieu les a rachetés à travers la main d'Égypte, du Pharaon. Ils étaient en esclaves. Dieu les a libérés à travers Moïse pour les amener dans une terre que Dieu a promis et appartenir à Dieu. Ensuite, il termine en suppliant Dieu de répondre à sa requête. Donc, Néhémie a reçu l'appel de Dieu. Il était tellement attristé par l'état lamentable de la muraille de Jérusalem. Tant lui, il a dit oui à Dieu, je veux bien aller à Jérusalem, faire démarrer le travail de la reconstruction du muraille. Voilà. Donc là, il demande à Dieu de bénir sa demande auprès du roi. Quand il dit donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme. Cet homme, c'est le roi perse. Alors ici, il nous dit son métier, il est échanson. Il sert le roi pour les boissons. Il doit d'abord boire les boissons pour être sûr que personne n'empoisonne le roi. Donc, il doit avoir un travail très séculier et puis très bien payé. En tout cas, tout est bien. C'est pour ça que je me suis posé pas mal de questions. Lui, étant la troisième génération, comment il a su vraiment s'y préoccuper par ce qui se passe à Jérusalem, qui a, je ne sais pas, regardé combien de kilomètres de loin de chez lui, et en plus, porter ce fardeau, aller là-bas pour construire, reconstruire la muraille. Je vous rappelle que par rapport à la première, au premier retour, il s'est écoulé 93 années. Donc vous voyez, pendant 93 années, les gens qui sont arrivés avec Jorobabel, avec Esdras, ils n'ont rien fait. En même temps, Dieu a mis dans le cœur de Néhémie, vas-y, allez à Jérusalem. Et je suppose, il connaît parler deux langues. En étant à Babylone, il doit parler araméen. Donc, ce n'est pas sa langue natale. Et sa langue natale, c'est hébreu. Donc, il a dû... Et le fait qu'il connaît tellement Dieu, qu'il est un homme de Dieu, je me suis dit, c'est incroyable, mais c'est vrai, ça doit venir de ses parents, de ses grands-parents. Donc, vraiment, je vois que vraiment, ses parents, ses grands-parents ont observé les commandements que Dieu a donnés à Moïse dans Deutéronome 6. Dieu a demandé aux Juifs de parler de la loi de Dieu à leurs enfants, à leurs petits-enfants, quand ils sont dehors, quand ils sont dedans, le jour et la nuit. Je pense que là, les parents de Néhémie, ils ont bien réussi. Mais c'est vrai, les parents ont bien réussi de lui faire connaître Dieu, mais lui-même, il a vraiment accepté Dieu comme son Dieu. Et voilà, c'est... Et il sait vraiment, il connaît bien l'histoire de son peuple, l'histoire de son patrie. Je me suis dit, moi, ou même la plupart d'entre nous, vous êtes la deuxième génération chinoise. Mais est-ce qu'il y a un parmi vous qui connaisse bien l'histoire de la Chine? Parlez bien couramment le chinois. Non. Ce n'est pas vous qui êtes échec, c'est nous les parents aussi. On est en partie en échec. On n'a pas su transmettre l'héritage culturel. C'est dommage, Laurent n'est pas là, parce que quand je lui parle en chinois, il me répond toujours en français. Mais je lui ai dit, profites-en, tu es encore avec moi, apprends le français, le chinois. Mais non, bon, bref, voilà. Voilà, je dis, Néhémie, il est la troisième génération et il arrive à pouvoir parler hébreu, qui n'est pas pratiqué à Suse. C'est franchement incroyable, mais vrai. Voilà, donc lui, il ne s'est pas posé la question de construire la muraille. En plus, il sert le vin à boire. Et là-bas, pour construire les murailles, il faut porter des pierres. Donc, vous voyez, et il ne s'est pas posé des « est-ce que si, est-ce que ça, des pourquoi, des... » Non, il a reçu l'appel de Dieu, et voilà, il a dit oui. Et nous verrons par la suite pourquoi il a réussi. Voilà, et franchement, c'est un exemple à suivre. Mais avant que j'ai lu Néhémie, mais je n'ai pas reçu tout ça. C'est depuis que j'ai choisi Néhémie pour vous parler, j'ai appris beaucoup plus de choses. Donc, merci Seigneur. Alors, le retour à Jérusalem. Alors, entre le chapitre 1 et le chapitre 2 que vous avez lu, il s'est écoulé un certain temps. Vous savez combien de temps ça s'est écoulé? 4 mois. Il a dû attendre 4 mois. Ce n'est pas très long, Donc, Seigneur, il donne seulement un délai de 4 mois à Néhémie, qui peut présenter devant le roi, lui faire sa requête. Mais je pense à d'autres personnages dans la Bible. Qui c'est qui a attendu le plus longtemps? Abraham, oui, c'est vrai. Moins que Moïse. Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Moïse a attendu 40 ans. Une autre personne qui a attendu une dizaine d'années, qui sait? Pardon? Plus fort. Oui, Noé. C'est vrai, Noé, c'est encore plus 100 ans, 120 ans. Oui, c'est le plus long, là. Puis rapproché. Un roi qui a attendu. Oui, le roi David. Je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Il doit avoir 16 ans vers que Samuel a oint. Il est roi seulement à Juda à 30 ans. Donc, une dizaine d'années. Voilà, vous voyez, pour Néhémie, c'est 4 mois. Et pour chacun de nous, chaque fois, donc c'est à nous d'apprendre, si Dieu nous appelle à le servir, savoir être patient. Ne pas précipiter, avancer le temps de Dieu. C'est ce que a fait Sarah, donc du coup, Ismaël est né. C'est un exemple, mauvais exemple à ne pas suivre. Voilà, donc ça s'est découlé 4 mois. Néhémie sert le roi, il nous a dit, c'est la première fois, il a une mine triste. Alors bien sûr, le roi, quand on le sert, on doit être toujours joyeux. Donc, le roi, d'après ce qu'il demande à Néhémie, ça se voit bien, ils ont une bonne relation entre eux. Puisque le roi dit, tu n'es pas malade, alors physiquement, si tu es triste, c'est que c'est une question de cœur. Néhémie est très honnête, il nous a dit tout de suite, il a eu très peur. Vous savez pourquoi il a eu très peur? Non? Si? Parce qu'à l'époque, le roi a droit de vie et de mort sur chaque personne. Donc si la personne qui le sert avec une triste mine qui ne lui plaît pas, il peut lui faire peine de mort. Voilà pourquoi Néhémie a eu si peur. Mais il a l'honnêteté de nous le décrire. Malgré, il sait que Dieu est avec lui. Donc, vous voyez, hein, c'est foi. Mais Abraham aussi, il a dû mentir 2 fois. Il sait que Dieu est avec lui. Voilà. Donc, il a eu très peur. Il a répondu que c'est à cause de l'état lamentable de sa patrie. Et ensuite, le roi est vraiment bien veillant, hein. Le roi sait qu'il a quelques requêtes à lui demander. Donc, il demande à Néhémie, que veux-tu? Alors, cette fois-ci, Néhémie, avant de parler au roi de la terre, il a d'abord parlé au roi du ciel. Amen. Voilà. Donc, il prie. Il prend le temps de prier. Ça, c'est un exemple à nous à suivre. Il ne précipite pas pour dire ça. Mais pourtant, il a déjà prié, je vous ai parlé hein, dans le chapitre 1, mais là, il veut encore de nouveau dépendre de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit la prière est notre privilège. Voilà, il parle au roi du ciel. Quand le roi du ciel dit « Ok », le roi de la terre ne peut que dire « Amen ». Voilà, donc ensuite, il dit au roi « Je veux aller à Jérusalem, reconstruire la muraille. » La réponse du roi, c'est « Ok, d'accord. » Donc, le roi lui a demandé combien de temps, tout ça. Là, il ne nous a pas donné le détail. Mais dans les chapitres suivants, on sait qu'il est resté 12 ans. Il va retourner encore une deuxième fois. Pour ce premier retour, c'est 12 ans. Et donc là, Néhémie voit que la porte est ouverte. Le patron là-haut a dit oui. Donc, Néhémie, il demande encore autre chose. Il a demandé au roi de lui accorder une escorte pour le protéger pour le chemin. Donc, il est prudent et vraiment vigilant. Ensuite, il demande au roi de pourvoir aux besoins matériels du bois pour les portes, pour tout ce qu'il faut. Et la réponse du roi, c'est toujours oui. Voilà, c'est pourquoi Néhémie nous dit la bonne main de Dieu. Comment on dit ? La bonne main de mon Dieu était sur moi. Voilà, ton vraiment, il est. Tout est bon là. Mais vraiment, je trouve qu'il est courageux. Parce que à l'époque, le voyage, ça se fait soit à pied, soit à chameau ou cheval. Et là, le voyage dure, vous savez combien de mois ? Pardon ? 6. Esdras a mis 4 mois, mais Némi a mis 3 mois. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je vais vous dire, j'ai fait une expérience. J'étais sur un dromadaire au Maroc. J'ai payé pour 1 heure. Mais au bout de 20 minutes, j'ai dit stop, je ne veux plus, fais-moi descendre. C'était pas confortable. Hein. C'est mal aux fesses, mal au dos, mal partout. Alors je ne sais pas, lui, 3 mois pour le voyage. Il quitte le confort du palais pour faire ce voyage. Donc, si Dieu n'a pas touché son cœur, il n'aurait pas dit oui. Hein. Voilà. Ça, vraiment, franchement, voilà. Après, le voyage à Jérusalem. Donc, le voyage s'est bien passé puisqu'il a été escorté. Donc, il arrivé bien la personne entière. Donc, voilà. Mais la Bible nous dit, tout de suite, dès qu'il est arrivé, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ce sont les ennemis du peuple Israël. Ils s'appellent Sanballat et Tobija. Voilà. Ils ne sont pas contents parce que, d'après eux, parce que Noémie va bien sûr relever le déshonneur et faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Peu importe, voilà. Donc, il y a déjà une hostilité dès son arrivée, vous voyez. Mais Noémie, il est inébranlable. Parce qu'il se repose sur le... Pardon ? Oui, Seigneur. Sur le rocher. Alors, quand il est arrivé, je ne vais pas vous faire lire, mais le verset... Chapitre 2, versets 11 à 16, nous dit que quand il est arrivé à Jérusalem, il ne s'est pas allé présenter tout de suite au chef de là-bas, ni au peuple. Il a décidé de prendre 3 jours pour d'abord faire un constat des dieux, pour inspecter tout l'état de la ruine. De la muraille. Parce que pour lui, il doit savoir que il doit y penser que ça ne doit pas être facile. Donc, comme il ne veut pas que les ennemis soient au courant, que les autres Judéens soient au courant, il a choisi de faire la visite la nuit. Voilà, il est parti la nuit à cheval avec quelques hommes de confiance. Donc, il fait son inspection de la ville avec ses hommes. Vous voyez, c'est l'état des murs. Il y a des murs qui sont tombés, tout ça, les portes qui sont consumées par le feu. Voilà, il prend son temps, il inspecte, il va à cheval. Jusqu'à un moment, il ne peut plus passer par le cheval. Donc, après avoir vu lui-même par ses yeux l'état de la ruine de ses murailles, il sait maintenant comment s'y prendre. Et c'est une bonne application pour nous aussi aujourd'hui. Si on est leader ou pasteur ou d'autres, si on veut proposer un ministère, un service, il faut que la personne qui propose soit vraiment connaître toutes les démarches, tous les détails avant de partager aux autres. Ça demande de ne pas faire toutes les choses par précipitation. Alors, maintenant qu'il a fait le constat des dieux, il va parler au peuple du Juda, appel à la construction. Alors, je vais vous le dire. C'est chapitre 2, versets 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes? Jérusalem est un champ de ruines. Ses portes ont été détruites par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, bâtissons. Et prirent courage pour cette œuvre bonne. Vous voyez ici, quand il leur parle, il a utilisé le pronom personnel « nous ». Il n'a pas dit « vous ». Il a dit « vous voyez, mais le malheur où nous sommes ». Donc, il s'est identifié de nouveau à eux, comme quand il a confessé le péché du peuple. Souvent, il s'identifie à eux. Donc, il dit que nous sommes dans le malheur, ruine. Ils sont en train de vivre le déshonneur. Tout cela pour dire que quand il parlait comme ça, il fait comprendre au peuple comme quoi il comprend bien leur état lamentable, leur misère, tout ça, et ça gagne l'adhésion du peuple. Et vous voyez qu'ensuite, il n'a pas oublié de leur dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne vient pas par lui-même. Il a raconté comment ça s'est passé, son échange avec le roi de Perse, dont la bonne main de Dieu est sur lui. Et vous avez vu la réponse du peuple et des chefs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous êtes tous endormis, là? La réponse est quoi? Oui. Vous voyez? Donc, d'après moi, là, en ce moment-là, Dieu n'a pas seulement mis le cœur de reconstruire la muraille, seulement dans le cœur de Noémie. Il a su embraser les autres par son enthousiasme. Et ils ont dit, tout de suite, dès qu'ils ont entendu, ils ont dit oui. Mettons-nous au travail, bâtissons les murailles. Et là, la Bible nous dit, fortifiez leurs mains. Donc, c'est Dieu qui leur fortifie. On va revenir sur aujourd'hui, quand le pasteur propose un ministère, tout de suite. Est-ce qu'il y a, trop souvent, est-ce que vous dites tout de suite, oui, j'y vais? Tu vas dire, je prends du temps, réfléchir. Te redonner la réponse plus tard. Là, non. Sur le champ, ils ont dit oui. Donc, il n'y a pas de doute pour moi, c'est le Seigneur est là. Donc, ils sont d'un même cœur. Donc, il a dit oui. Et voilà ce que c'est quand Dieu est dans le travail. La Bible nous dit souvent, si Dieu n'est pas avec nous, je ne sais plus quel psaume, en bâtissant la muraille pour rien, etc. Voilà, on va voir la suite. Voilà, pour montrer un peu la muraille, c'est quand même grand, hein. Vous voyez bien. Il y a tout ça à faire, hein. C'est pas... D'accord. Donc, alors, reconstruction de la muraille. Peut-être vous laisser sur la muraille. Alors, maintenant... Alors, dans le premier verset du chapitre 3, la Bible nous dit, c'est le grand prêtre et ses frères qui commencent à bâtir la porte du petit bétail. Donc, c'est pour nous dire que les premiers qui ont commencé, c'est les prêtres, c'est les responsables. Donc, ça veut dire qu'en pratique, pour nous, quand le pasteur ou les leaders de l'Église demandent aux autres de faire quelque chose, le leader, le pasteur lui-même, doit d'abord commencer à le faire. Donc, étant pasteur ou leader, on n'est pas seulement là pour prêcher, enseigner, faire des travaux intellectuels. Mais quand il y a besoin des travaux manuels, il faut mettre la main à la pâte. Et merci. Pour nous, à Saint-Maur, le pasteur Nguyen, il est franchement un bon exemple. Dans tout ce qui est manuel, il est toujours le premier à le faire. Voilà. Donc, vous voyez, pratiquement tout le peuple ont participé à ce travail, sauf quelques-uns. Alors, dans le verset 5, la Bible signale que à côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les princes ne se soumirent pas au service de leur maître. Voilà. Donc, il y a quelques princes qui se croient trop nobles pour abaisser, pour faire les travaux de la muraille. Et Néhémie les néglige. Il ne va pas aller les voir, les respecter ou reprendre. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est aussi un exemple pour nous, pour les ministères de l'Église. S'il y a quelques-uns qui ne participent pas, on n'a pas à aller les reprocher. Leur compte à rendre, c'est au Seigneur, au patron là-haut, plus tard. Donc Néhémie, il ne perd pas son temps pour reprendre ces personnes qui ne veulent pas participer au ministère du Seigneur. Pour moi, si le Seigneur nous invite à travailler pour lui, c'est plus un honneur qu'une corvée. Donc si on refuse de travailler pour le Seigneur, on refuse la part de bénédiction. Voilà, donc on les néglige. Pendant toute la construction, Néhémie a rencontré de nombreuses pressions de l'intérieur du peuple judéen et de l'extérieur des deux chefs, Sanballat et Tobija. Alors, de l'extérieur, les ennemis, ils ont essayé par plusieurs tactiques pour démoraliser Néhémie, parce qu'ils savent que c'est lui le leader. Si le leader tombe, les autres vont s'arrêter. Alors, la première, c'est le ou la tactique ? Le ou la ? La première tactique, c'est se moquer d'eux. Parce que pendant 90 ans, ils n'ont rien fait. Et ils étaient faibles. Donc, ils se sont dit, oh, c'est des faibles, ils ne vont pas tenir. Et puis, après, ils disent que les murailles qu'ils vont construire, même le renard qui saute dessus, ça va tomber. Mais Néhémie passe outre. Deuxième tactique, menacée. Ils pensaient coaliser ensemble pour attaquer Jérusalem avant que la muraille soit réparée et pour tuer Néhémie et les Judéens. Mais Dieu a permis que Néhémie soit au courant de ce complot. Donc du coup, Néhémie a mis les serviteurs pour la garde. Et en ce même moment, le même peuple de Juda, ceux qui habitent près des ennemis, sont venus voir Néhémie 10 fois de suite. Lui dire, ça ne sert à rien que tu fais ce travail-là, laisse tomber, sois peinard, ne te fatigue pas, et bien, et tout. Néhémie n'a pas écouté. Et à chaque fois, sa réponse est prier à Dieu, demander à Dieu de l'aider. Donc, quand l'ennemi a entendu que Néhémie connaître est au courant de leur complot, et la Bible nous dit que c'est Dieu qui a mis en échec leur complot. Donc, à partir de ce jour-là, Néhémie demande à ceux qui travaillent sur la muraille de travailler avec une main et d'avoir une arme à l'autre main pour qu'ils soient toujours être prêt en cas d'attaque des ennemis. Et il a prié Dieu pour que Dieu le garde. Et à part ça, ce qu'il a fait, il a partagé ses serviteurs. La moitié participe aux travaux de Manuel. La moitié, il monte la garde. Il a mis un homme qui sonne la trompette à côté de lui et dit aux autres comme quoi que si les ennemis arrivent, quand vous entendez la trompette sonner, vous allez rassembler autour de moi. Comme ça, nous pouvons être ensemble pour contre-attaquer les ennemis. Voilà, donc avec tout ce qu'il a pris, vous voyez, il a fait deux choses. Il a prié Dieu pour que Dieu les protège. Notre songe, il prend des démarches pour assurer leur sécurité aussi. Pour nous, c'est pareil. En cas de danger, on peut prier le Seigneur, mais il faut qu'on fasse, nous, quelque chose. Il y a toujours une part de nous à faire. Nous, on fait notre part. Le Seigneur, il fait sa part. C'est pas Seigneur fait tout et nous, on fait rien. Donc, Dieu demande, nous, la sagesse. Il nous a donné l'intelligence, le cerveau et tout. C'est aussi pour agir. Si Némi ne met pas les soldats, les serviteurs en garde, ne demande pas aux ouvriers de garder la lame sur eux, si en cas d'attaque, ils vont être tous tués. Donc voilà, il ne faut pas seulement compter que sur la prière. Dieu nous demande aussi de notre part. Alors, puisque tout cela, ça ne marche pas. Alors, et Némi sait qu'ils sont découragés. Il a dit, à travers ce qu'ils disent aux Judéens, la Bible nous montre que Néhémie est vraiment un homme de foi. Alors, je vous lis le chapitre 4, verset 14. N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Ils relèvent leur esprit, leur courage pour leur dire que ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour leur famille et pour leurs enfants. Et dans le verset 20, ils disent que c'est notre Dieu qui combat pour nous. Il les rappelle toujours que Dieu est avec eux, puisque dès le départ, il leur a dit que la bonne main de Dieu est sur nous. Donc, il les garde, encourage pour leur dire toujours ne pas baisser les mains, ne pas baisser le courage, parce que Dieu est avec nous. Ensuite, par force, l'ennemi n'arrive pas, du coup, il veut faire par douceur. Ils ont écrit une lettre invitant Némi à les rencontrer 4 fois de suite. Némi, à chaque fois, il l'a refusé. Il sait très bien que c'est un guet-apens. S'il va vivant, il ne va pas rentrer vivant. Donc, il n'a pas de temps de perdre. Il leur dit, j'ai un travail urgent, important pour mon Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous qui n'a pas de part avec le Seigneur. Alors, comme ça ne marche pas par politesse, la 5e lettre, ils ont lu bibliquement. Ils essayent de calomnier Némi en disant que Némi veut s'auto-proclamer roi. C'est pareil, Némi n'a pas cherché à se défendre, puisqu'il ne l'a pas fait, donc leur mensonge a été détruit en toutes pièces. Alors, cette fois-ci, Némi, il a prié que Dieu fortifie sa main. Je trouve qu'il a vraiment du courage. Il n'a pas demandé à Dieu de réduire en miettes ses ennemis, comme David l'a fait. Il a simplement demandé à Dieu de fortifier son courage, sa main. Le dernier complot, ils ont payé un homme de Juda pour proposer à Néhémie lui dire: il faut que tu viennes avec moi se réfugier dans le temple. Sinon, tu seras tué par l'ennemi. Alors, Néhémie voit très bien que cela ne vient pas de Dieu et la parole ne vient pas de Dieu. Et en plus, est-ce que d'après vous, quiconque a le droit de rentrer dans le temple? Ben non. Qui sont les personnes qui sont autorisées à entrer dans le temple? Je parle dans l'Ancien Testament. Hein. Ouais, les prêtres et les lévites. Si une personne quelconque entre dans le temple, qu'est-ce qu'il risque? Ben oui, mourir. Vous vous souvenez, le roi Joas, il est rentré dans le temple et il voulait offrir l'encens. Parce qu'il a tellement réussi, l'orgueil, ça lui passe par la tête, il voulait offrir l'encens à Dieu. Et le grand prêtre, avec 70 prêtres, et sans rentrer dedans, lui suppliait de sortir. Il n'a pas écouté, il s'est fâché. Vous savez ce qui s'est passé à ce roi? Oui. Le front, tout de suite, dès qu'il s'est mis en colère, la lèpre est apparue sur son front. Vous voyez, même un roi. Voilà. Donc, Néhémie, il est, pour moi, c'est ouf, quoi, sa connaissance. Comment on dit? Ouf, 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 ouf. Mais comment il connaît Dieu? Comment il dépend de Dieu? Comment, franchement, c'est incroyable, mais vrai. Voilà. Donc, vous voyez, après, et en plus, il y a le prêtre, il y a un des enfants, un fils du prêtre, s'est marié même avec la fille de l'ennemi. Vous voyez, même il y a un mariage mixte dans la famille du prêtre. En tout cas, alors, il y a aussi une partie des nobles qui disent du mal de Néhémie, mais lui, parmi tous ces pression de l'intérieur, pression de l'extérieur, il demeure inébranlable. Il repose sur le Seigneur, sur le rocher. Il n'a pas peur, il n'a pas vraiment, il a la paix et tout. Voilà. Du coup, le travail, impossible aux yeux des hommes, mais avec Dieu, ils ont fait des exploits, ils ont réussi. Combien de jours ils ont terminé? Combien? Ah, ce matin, il y a des gens qui ont répondu, les sinophones. Alors, 52 jours. Voilà. D'accord? 52 jours, c'est pas très long. Hein. C'est moins que 2 mois. Ah, quand ils ont traîné pendant 90 ans, ils n'ont rien fait. Donc, vous voyez, quand Dieu est avec eux, tout ce qui est impossible devient possible. Alors, je vais lire le Néhémie 6, chapitre 6, verset 15 à verset 16. C'est le but que Dieu veut que Néhémie reconstruise la muraille. Alors, 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent et que toutes les nations autour de nous le virent, ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a appelé Néhémie, qui est troisième génération, un homme ordinaire comme toi et moi, qui a un travail séculier, qui a accepté de partir de son zone confort, braver tous les vents, tous les tempêtes, il a réussi. Et pourquoi? Pour remonter l'honneur, le nom, le grand nom de Dieu parmi son peuple et parmi les ennemis. Parce que tant que la muraille est en ruine, le peuple est dans la misère, dans les déshonneurs, et que les ennemis vont dire que la ville où Dieu réside, c'est en décadence. La muraille qu'on se reconstruit, ça symbolise la force. Il a, donc c'est vraiment Dieu l'a utilisé pour que le nom de Dieu soit de nouveau glorifié parmi tous les peuples et toutes les nations. Donc ce n'est pas seulement une question de construction des pierres. Mais c'est vrai pour vous et moi, les murailles aujourd'hui, ça ne sert à rien, puisqu'il y a mondialisation. Mais à l'époque, revenons à l'époque, quand tu es dans une ville avec un muraille, une forteresse très forte, ça veut dire que tu es en sécurité. Tu peux, les ennemis ne peuvent pas attaquer. Vous vous souvenez, Jéricho, les Juifs étaient, ils disaient les murailles sont trop grandes, on n'arrive pas à attaquer. Donc à leur époque, la muraille est vraiment indispensable. Et quand on lisait le verset, le chapitre 1, quand les hommes qui sont revenus de Jérusalem nous racontaient sur l'état moral des Judéens, on peut aussi faire un parallèle. Pas seulement la muraille de Jérusalem est tombée en miettes, leur état spirituel, leur état moral est aussi tombé en miettes. Donc là, Néhémie, Dieu a utilisé, comme Dieu a utilisé Moïse, là, il a utilisé Néhémie pour remobiliser son peuple, travailler pour lui, en même temps, embraser leur confiance, leur cœur vers Dieu. Donc, ce n'est pas simplement un travail manuel, faire construire les pierres sur pierre. Vous voyez, même les prêtres, les grands prêtres, ils ont commencé le premier. Ils ont vraiment bien vu l'importance des travaux. Voilà, donc vraiment, Néhémie. Alors, je fais des photos pour vous montrer. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est une des portes. Voilà, ça c'est la muraille qui est reconstruite à l'époque de Néhémie. Bon, on va rester là. Alors, pour conclure, Néhémie, ça m'a toujours choquée, il est la troisième génération et tient tellement à cœur à l'histoire, à son peuple, à sa patrie, ça me dépasse. Mais je sais que Dieu, ça ne dépasse pas Dieu, mais Dieu, il veut utiliser quelqu'un, c'est toujours, il utilise quelqu'un. Voilà. À travers Néhémie, qui est une personne ordinaire, mais il a répondu à l'appel de Dieu. Il est embrasé, il veut participer à cette construction, reconstruction de la muraille. Il fait confiance totalement à Dieu. Il ne pense pas à toutes les histoires de pourquoi est-ce que j'ai réussi ou pas, non. Il est inébranlable face à toutes les pressions, tout. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas lui qui combat. C'est qui combat pour lui? L'Éternel, notre Dieu, c'est ce que Dieu a toujours dans l'histoire d'Israël. Dieu a toujours dit, ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi qui combats pour vous. C'est Dieu qui mène. Et ce Dieu qui a combattu pour l'Israël dans l'ancien temps, pareil, il combat pour nous aussi. Quand on nous appelle à un mystère, c'est lui qui précède, qui nous précède, qui nous mène. Donc là, nous voyons que grâce à Néhémie, il a un cœur obéissant, un cœur humble, un cœur qui dépend totalement de Dieu, quelles que soient les circonstances d'extérieur. Il a réussi un exploit que tout le monde pensait que c'est impossible. Du coup, par ce qu'il a fait, il a rendu service à ses compatriotes et il a rendu gloire à Dieu. Donc pour moi, il a répondu à ce que Jésus a résumé. Adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Anne-Marie, tu voulais que je prêche quelque chose sur l'amour pour ton prochain. J'ai pris Némi, mais finalement, j'ai compris que c'est ça. Parce qu'il a tellement l'amour pour ses compatriotes qu'il n'a presque pas, il n'a jamais connu, il n'a jamais vu, mais il est allé. Il a quitté son zone de confort et tout. Est-ce que vous êtes prête à partir de la France, partir dans un pays, en Chine, dans un village, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas moi. Hein, si Dieu vous appelle, est-ce que vous êtes prête de partir comme Némi? Alors, vous êtes deuxième génération, hein, Némi, c'est troisième génération. Voilà, vraiment, donc je me suis dit, qu'on soit ordinaire ou un peu plus intelligent, ce n'est pas grave. Le plus important, si on dit oui, amen au Seigneur, si on reçoit son appel. C'est sûr qu'il est à nous et nous précède. Alors, j'ai une question à vous demander, chacun. Est-ce que, depuis que tu es converti, que Dieu t'a choisi jusqu'à maintenant, est-ce que tu as reçu un appel du Seigneur particulier? Qu'est-ce que tu as fait de cet appel? Tu as dit amen ou tu as dit comme Moïse, je ne sais pas parler, choisis quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien vraiment vous dire que c'est un honneur pour nous de participer au travail avec le Seigneur. Et personne n'est indispensable. Si le Seigneur m'a choisi, et je dis non, il passe outre, il va chercher quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai passé à côté de la bénédiction que je peux recevoir. Je sais, c'est un peu long, mais j'ai juste partagé avec vous mon appel. Ça fait 11 ans que j'attends. C'est toujours pas encore le temps de Dieu. Je suis convertie en 2004, un âge avancé. Tout de suite, dès que je suis convertie, je ne sais pas pourquoi, je dis, je veux être missionnaire. Donc, et en plus, à l'époque, je dis à un pasteur de mon église, je veux être missionnaire, mais je ne veux pas suivre les études théologie. C'est trop compliqué. Avec du recul, je sais que c'est ridicule. Donc, le Seigneur passe outre. Mais j'ai commencé à évangéliser dans mon cabinet. Bon, mais ça ne me satisfait pas. Moi, je veux partir partout là. Je vais vous dire que ce matin, j'ai parlé avec les sinophones. Mon rêve, c'est être missionnaire sans frontières. Avant, j'étais médecin, je voulais faire médecin sans frontières, mais je ne l'ai pas fait. Et je remercie le Seigneur que maintenant, je puisse être à la fois médecin sans frontières, missionnaire sans frontières, avec sous la couverture du médecin. Parce que dans beaucoup de pays fermés au christianisme, si on va rentrer avec le titre de missionnaire ou pasteur, tu n'obtiens même pas le visa. Mais j'y vais en tant que touriste, en tant que médecin, offert des soins gratuits, je pense que la porte est ouverte. Et pendant que je soigne les malades, je peux évangéliser. Là, personne ne peut me fermer la porte. Voilà mon rêve, donc si vous pouvez prier pour moi, parce que je ne veux pas partir tout seul. J'attends que mon mari, soit aussi appelé, comme ça on peut partir tous les deux, et là, ça sera vraiment super. Voilà, ça fait 11 ans que j'attends, donc c'est plus long que Némi, c'est moins long que Moïse, mais je ne pense pas que Dieu me fait attendre 40 ans parce que je ne crois pas que je vais vivre centenaire et je ne vais pas pouvoir marcher. Voilà, donc ça, chacun a son appel. Donc si tu as un appel de Dieu aujourd'hui ou déjà depuis un moment, ne dis pas non parce que sinon tu passes vraiment à côté de la bénédiction. Et ne pas perdre courage parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi qui combats tout seul, c'est Dieu qui combat pour toi. Je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce livre de Némi. Merci vraiment pour l'exemple, cet homme qui est vraiment, qui a une foi presque inébranlable, Seigneur. Il a bravé toutes les difficultés, il a choisi, vraiment décidé de partir de son zone de confort et aller jusqu'à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Et en reconstruisant la muraille, il a vraiment rendu gloire à toi et aidé son peuple à sortir de la misère. Seigneur, aujourd'hui, tu es le même Dieu, Seigneur. Et je sais que tu as beaucoup, tu as vraiment l'appel pour chacun de nous, pour différents ministères, Seigneur. Et que nous ne soyons pas découragés. Et fortifie-nous, Seigneur. Et que vraiment, tu nous donnes la force, le courage de dire oui. Donne-nous aussi, Seigneur, de vraiment un cœur obéissant, un cœur humble, un cœur dépendant totalement de toi. Et que nous puissions vraiment combattre pour toi, pour gagner les âmes perdues pour toi, pour que dans le ciel, les anges dansent de joie, parce qu'il y a un pécheur qui se reconvertit. Je prie au nom de Jésus. Amen.